Il y a ce phénomène bien connu sur la route, le fameux angle mort.
Ah oui, la terreur des conducteurs.
C'est exactement ça. On regarde dans le rétroviseur central, tout est dégagé. Le rétrolatéral, pareil, on déboîte en toute confiance et là, un coup de klaxon brutal nous fiche sur place.
Parce qu'un véhicule entier était caché juste à côté.
Voilà, invisible, mais avec un impact potentiel dévastateur si on le percute. Eh bien, quand on s'intéresse à la macroéconomie, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, l'erreur est exactement la même.
C'est une excellente métaphore, ouais.
On fixe les grands indicateurs, on garde les multinationales, les immenses chantiers, et on rate complètement ce qui roule juste à côté de nous. Donc, dans cette nouvelle session d'analyse, on va braquer les projecteurs sur cet angle mort historique de l'économie marocaine, les très petites, petites et moyennes entreprises. Les fameuses TPME.
Et c'est un angle mort qui représente pourtant, enfin, la quasi-totalité du tissu économique du pays, quoi. La réalité, c'est que l'attention politique et même médiatique a très longtemps été monopolisée par les méga-projets d'infrastructures ou les investissements étrangers.
Les usines géantes, les ports.
Exactement. Pendant ce temps, l'artisan, la petite usine de transformation régionale ou la petite start-up de service, ces entités créent le gros de l'emploi local. Mais elles évoluaient jusqu'ici dans une sorte d'invisibilité institutionnelle. Ce qui rend notre décryptage d'aujourd'hui particulièrement pertinent, c'est l'émergence d'une vraie tentative de corriger cette trajectoire.
Tout à fait. Et le point de départ de notre réflexion, ça s'appuie sur un dossier vraiment très riche publié par la publication Eco-Business by Lodge. Un dossier daté du 18 mai 2026.
Un excellent document, très fouillé.
Ouais, vraiment. Et ce dossier, il décortique une toute nouvelle stratégie nationale qui a été lancée juste avant, fin avril 2026, le pacte TPME 2026-2030. L'enjeu ici, c'est pas juste de distribuer une énième subvention de sauvetage pour faire joli.
Non, pas du tout. Ce qui ressort des données de ce dossier, c'est la promesse d'un véritable changement de logiciel. Enfin, une redéfinition totale de la manière dont l'État interagit avec ses petites structures.
C'est ça. Et la question centrale qui va animer notre échange, ça va être de savoir si on assiste vraiment à une révolution pragmatique, un truc capable de transformer le quotidien d'un entrepreneur en région, ou si on va encore assister à l'effondrement d'une belle promesse politique face au mur de la bureaucratie.
Et pour évaluer ça, il faut impérativement disséquer la racine du mal. Historiquement, l'intervention publique, elle souffrait d'un double défaut, quasi mortel pour les TPME. D'abord, une hyper-centralisation géographique.
C'est-à-dire ?
L'axe Casablanca-Rabat, c'est ça ?
Absolument.
L'essentiel de l'écosystème d'accompagnement, les bureaux, les décideurs, tout était concentré sur cet axe atlantique. Donc, si une petite boîte d'agroalimentaire cherchait à se développer, disons, dans l'Oriental ou dans le Sousse-Mansa, la simple distance physique avec les centres de décision devenait une barrière infranchissable.
Ah oui, faire des allers-retours de 500 km juste pour un coup de tampon...
C'est juste ingérable pour un petit patron. Et ensuite, le deuxième défaut, c'était la fragmentation.
Ah, la fameuse fragmentation de l'aide publique. Ça, le dossier insiste beaucoup dessus. Concrètement, l'entrepreneur se retrouvait face à un labyrinthe complètement absurde.
Ouais, un vrai casse-tête.
Il fallait frapper à la porte de Maroc PME pour obtenir tel type de financement, puis traverser la ville pour aller voir l'ANAPEC en espérant une aide à l'embauche.
Puis chercher encore un autre organisme public s'il voulait des conseils pour l'export, enfin bref.
Naviguer là-dedans, c'était littéralement un parcours du combattant, mais en plein brouillard. Et le pacte TPME tente de briser ça avec ce qu'ils appellent la territorialisation, en s'appuyant massivement sur les CRI, les centres régionaux d'investissement, pour créer un truc crucial, un one-stop-shop, un guichet unique.
Ce qui change tout sur le papier.
Oui. Si on devait faire une analogie pour notre audience, l'État fonctionnait avant comme une vieille carte routière en papier, ultra complexe et illisible. Le guichet unique, c'est censé être le GPS. L'entrepreneur entre sa destination, le système calcule l'itinéraire, gère les détours administratifs en arrière-plan et l'amène à bon port sans qu'il ait besoin de comprendre les rouages de la machine étatique.
Et le mécanisme derrière cette centralisation locale, il change complètement la donne sur le plan de la charge mentale, en fait. Faut bien comprendre qu'une très petite entreprise, ça n'a pas de directeur de la stratégie ou un département juridique de 10 personnes.
C'est clair. Le patron fait tout.
C'est exactement ça. Le fondateur, c'est celui qui ouvre le rideau métallique à 8h du matin, qui négocie les prix avec ses fournisseurs à midi et qui s'arrache les cheveux sur sa comptabilité à minuit. Faire de l'ingénierie administrative pour comprendre quel formulaire précis correspond à telle ou telle aide, c'est juste impossible. Ça lui demande trop d'énergie.
Donc, le fait de ramener ce guichet au niveau régional, directement dans les CRI, ça change la donne.
Bah oui, parce qu'on supprime le coût d'accès à l'information. La proximité géographique, c'est pas qu'un détail administratif de confort, c'est une condition de survie pour inclure l'économie qui se trouve en dehors des grandes métropoles traditionnelles.
D'accord. Donc, une fois que cet entrepreneur a trouvé cette fameuse porte, ce guichet unique grâce à son GPS régional, qu'est-ce qu'il trouve au menu? Le dossier d'EcoBusiness montre que l'offre a radicalement changé. Déjà, fini l'obsession exclusive pour l'industrie lourde.
Ouais, on ouvre enfin les vannes.
Le plan s'ouvre à tous les secteurs avec 8 dispositifs vraiment spécialisés. Et là où ça devient, je trouve, assez ingénieux, c'est que l'approche est maintenant calquée sur le vrai cycle de vie de l'entreprise.
Et cette approche modulaire, elle est cruciale, parce qu'elle brise enfin ce mythe tenace qui considère la petite entreprise comme un bloc homogène.
C'est-à-dire qu'on ne traite plus tout le monde de la même façon.
À faire tous les 6 mois, elle n'a absolument pas les mêmes besoins qu'une menuiserie familiale de 20 salariés qui est en train de perdre toutes ses parts de marché.
Logique.
Donc le plan, il introduit des outils très ciblés. On y trouve par exemple le Pact Scale-Up, qui est pensé comme un accélérateur pour propulser ce qu'on appelle les gazelles.
Les entreprises à très fort potentiel de croissance, c'est ça?
C'est ça. Mais à l'autre bout du spectre, il y a le pacte restructuration. Ça intervient en amont pour les entités qui sont vraiment au bord de l'asphyxie financière, pour les sauver avant qu'elles ne soient liquidées purement et simplement.
Et d'ailleurs, en parlant de cycle de vie, il y a un dispositif qui est hyper révélateur de ce changement de mentalité. Ça touche à ce que le dossier qualifie carrément de tabou économique.
La transmission de l'entreprise.
Ouais. Quand on y réfléchit, pour tous ceux qui observent l'économie locale, le nombre de boîtes florissantes qui disparaissent du jour au lendemain juste parce que le fondateur part à la retraite...
Et que rien n'a été préparé.
Voilà, le passage de flambeau à la génération suivante, où un repreneur n'a jamais été structuré, ni juridiquement, ni financièrement. C'est un gâchis monumental de capital et de savoir-faire. Donc, mettre en place un dispositif public spécifique pour ça, c'est de la préservation de valeur pure et simple.
C'est évident. Le sauvetage d'un outil de production qui tourne déjà, ça coûte infiniment moins cher à la collectivité que d'essayer de créer une nouvelle boîte de taille équivalente en partant de zéro.
Complètement.
Mais je dirais que l'aspect le plus disruptif du pacte, c'est sans doute son volet d'intégration aux nouveaux standards mondiaux. Surtout avec le fameux dispositif lié à la décarbonation et à l'eau.
Ah oui, alors ça c'est un point majeur. Vraiment. Parce que pendant des décennies, optimiser sa consommation d'eau ou faire un joli bilan carbone, c'était un peu perçu comme le privilège des départements RSE, des grandes multinationales, juste pour faire bien dans le rapport annuel, quoi.
C'était un luxe, ouais.
Mais aujourd'hui, avec la pression réglementaire, notamment la taxe carbone aux frontières de l'Europe, c'est plus du tout une option. Pour qu'on visualise bien l'enjeu, le dossier prend l'exemple d'un petit atelier textile à Tanger.
Un exemple très parlant, d'ailleurs.
Ouais. Cet atelier fabrique des t-shirts pour une marque espagnole. Avant, l'acheteur espagnol y demandait quoi? Le prix et le délai de livraison. Point.
Et la qualité du coton, à la limite.
C'est ça. Mais désormais, ce même acheteur exige de voir les métriques exactes de recyclage des eaux usées. Il veut l'empreinte carbone certifiée de toute la chaîne de production de l'atelier. Pourquoi? Parce que la réglementation européenne l'y oblige, tout simplement.
Et s'il ne les a pas?
S'il ne les a pas, ou si l'atelier tangérois n'a pas ces données, bah, l'acheteur espagnol bascule immédiatement ses commandes vers un autre atelier au Portugal ou en Turquie, qui lui est au Nord. Donc ce dispositif de décarbonation, c'est littéralement devenu le ticket d'entrée obligatoire pour survivre sur les marchés internationaux.
C'est fou quand on y pense, la pression réglementaire, d'un coup, elle s'est transformée en barrière commerciale frontale pour les petites boîtes. Donc l'intervention de l'État ici, elle vise vraiment à empêcher que les TPME marocaines ne se fassent exclure mécaniquement des marchés d'exportation.
C'est une question de survie macroéconomique.
Tout à fait. Il y a un vrai transfert d'exigences du Nord vers le Sud. Et cette mise à niveau un peu forcée, elle s'arrête pas à l'écologie. Le plan intègre aussi massivement la digitalisation et même l'intelligence artificielle pour booster la compétitivité. L'idée, c'est plus de se contenter de créer une vague page Facebook ou un site vitrine, mais d'optimiser la gestion des stocks, la relation client, via des outils numériques vraiment avancés.
Et le contexte est temporel pour cette bascule numérique. Il est juste féroce. Le dossier, il inclut des données hyper fraîches, le bilan social média du premier trimestre 2026, publié par Logge. Et l'instabilité des audiences que ça montre saute vraiment aux yeux.
Les chiffres sont impressionnants, oui.
Pour donner une idée à notre audience, à l'échelle globale, on observe une explosion de la consommation de contenu. On parle de plus de 67 millions de vues.
C'est énorme.
Une hausse de 378,7% pour être précis.
Et là-dedans, Instagram capte une part massive, avec une croissance de plus de 53%. Mais au même moment, et c'est là que c'est fou, TikTok dévisse violemment, avec une baisse d'engagement de 42,2%.
Moins 40% pour TikTok. C'est une chute libre.
Bah oui! Et le message derrière ça, pour une petite entreprise, c'est que l'attention de ses clients se déplace à une vitesse folle. Si, je sais pas, une boulangerie industrielle ou une agence de service essaye encore de prospecter avec les méthodes il y a 5 ans, elle devient littéralement invisible.
Elle n'existe plus.
Voilà. La présence digitale aujourd'hui, ça exige une réactivité constante. Et ça, bah, ça nécessite de la formation et des outils que ces petites boîtes peuvent pas se payer toutes seules.
Surtout avec la volatilité des plateformes que révèlent ces chiffres. Investir son petit budget sur le mauvais canal numérique, ça peut coûter extrêmement cher. D'où la nécessité absolue d'un accompagnement externe. Mais...
Mais, je sens le mais arriver.
Oui, parce que l'injection de concepts comme la digitalisation de pointe, l'IA ou les fameuses normes ESG, environnement, social et gouvernance, ça soulève quand même une contradiction fondamentale sur le terrain.
Ah, on y vient. C'est vrai que le social, ça implique des contrats de travail clairs. La gouvernance, ça demande une comptabilité transparente.
Or, la réalité du tissu marocain, c'est qu'une part massive des TPE-PME évolue dans des zones grises, voire carrément dans l'informel. On parle de boîtes gérées avec du cash et un carnet à spirale, quoi.
C'est là-dessus que j'avais un gros doute en lisant le dossier. Je veux dire, on parle d'imposer des standards de la Silicon Valley ou des normes bruxelloises à un petit garage mécanique qui gère sa trésorerie au jour le jour. C'est pas un peu mettre la charrue avant les bœufs? Pousser l'intelligence artificielle chez un artisan qui n'a même pas de fichier client sur ordinateur, c'est construire le toit avant les fondations, non?
Complètement. Le risque, ce serait de financer des consultants externes très chers pour produire de beaux rapports de transformation digitale qui finiront juste dans un tiroir, sans jamais rien changer au quotidien de l'entrepreneur.
C'est le danger classique.
Mais la friction est immense et le dossier d'éco-business ne l'élude pas du tout. Il évoque explicitement un, je cite, « défi culturel immense ». Le mécanisme de transition, il ne peut pas reposer juste sur une perfusion financière.
Donc, comment il compte faire
C'est là que l'échelonnement des dispositifs est censé intervenir. Avant même de parler d'algorithmes prédictifs, le premier travail de l'accompagnement, ça va être d'imposer un changement de paradigme dans la gouvernance de base.
Donc, sortir du cash ?
Sortir du cash. Bancariser les transactions, séparer le compte personnel du dirigeant de celui de la boîte, déclarer les employés. En fait, l'aide de l'État agit un peu comme une carotte pour attirer l'entreprise informelle vers la formalité. On ne lui donne accès au financement supérieur que si elle assainit sa base. C'est un processus sociologique autant qu'économique au final.
Ce qui nous amène inévitablement à la discussion sur le volet quantitatif et surtout sur la viabilité financière de toute cette opération.
Le nerf de la guerre.
Ouais, parce qu'on a la vision, on a les outils, c'est beau. Mais regardons un peu la facture. Les objectifs affichés d'ici 2030, c'est d'accompagner 4000 TPME, donc environ 800 entreprises par an, et de contribuer à préserver ou créer plus de 54 000 emplois.
Jusque-là, c'est des volumes qui semblent cohérents avec ce que le marché peut absorber.
Oui, le volume est rationnel. Mais là où j'ai vraiment tiqué, c'est sur le modèle de financement. Le document mentionne que la prise en charge par l'État peut grimper jusqu'à 80%, voire 90% pour certains coûts d'accompagnement.
C'est massif!
Bah, couvrir 90% de la facture d'une restructuration, c'est quasiment un chèque en blanc. Surtout quand la source elle-même souligne que le contexte budgétaire global de l'État est, je cite, « sous pression ». Est-ce qu'un tel modèle est vraiment soutenable sur plusieurs années sans s'effondrer?
C'est la question à un million. Le niveau de subvention est effectivement très agressif. Et ça pose immédiatement la question du risque d'aubaine.
L'effet d'aubaine, c'est-à-dire que les boîtes prennent l'argent sans vraiment faire d'efforts.
Exactement. Comment éviter qu'un patron se dise « Génial, l'État paye 90% d'une mission de conseil, je prends », mais sans avoir la moindre intention de transformer sa boîte en profondeur derrière. C'est le piège typique des politiques publiques.
Ouais, prendre la carotte et jeter le bâton.
Voilà. Et c'est pour ça que le texte insiste si lourdement sur la gouvernance et l'évaluation continue de ce pacte. La ligne de crête, elle est super étroite. Si l'administration se contente d'évaluer son succès uniquement sur des indicateurs de moyens...
Du genre le nombre de chèques signés.
C'est ça. Le nombre de chèques signés ou le nombre de boîtes qui ont eu un diagnostic subventionné. Si on s'arrête là, le programme sera un échec total, juste masqué par de belles statistiques d'activité gouvernementale.
Ah. Le fameux syndrome de la présentation PowerPoint. J'adore cette expression de la source. Le moment où tout est bien vert sur les jolis graphiques du ministère, alors que sur le terrain, les boîtes continuent de couler.
C'est un grand classique, malheureusement.
Pour que cet argent public soit un vrai investissement et pas juste une dépense jetée par les fenêtres, les métriques doivent changer. Avoir accompagné 800 entreprises dans l'année, ça veut strictement rien dire si 3 ans plus tard, la moitié a fait faillite.
Le juge de paix, ça doit être l'impact réel, le succès du guichet unique qui ne se mesurera qu'à l'évolution concrète du chiffre d'affaires après l'accompagnement, au taux de survie à 5 ans, à l'augmentation de la balle d'imposition de ces boîtes qui se sont formalisées.
Et bien sûr, à la création nette de nouveaux emplois durables.
Absolument. Et le passage de l'annonce politique à cette exécution sur le terrain, ça a souvent été le talon d'Achille des réformes au Maroc ces 15 dernières années. On a vu des plans directeurs brillants sur le papier, mais qui s'embourbaient direct dans les lourdeurs administratives dès qu'il fallait vraiment débloquer les fonds au niveau local.
La bureaucratie reprenait le dessus, quoi.
Toujours. Le pacte TPME tente d'anticiper ça, justement, avec cette fameuse gouvernance décentralisée via les CRI. Mais le degré fluidité de cette chaîne de commandement, ça va être le crash test. Si une entreprise est en pleine crise de trésorerie et demande le pacte restructuration, la réactivité de l'agence déterminera la crédibilité de tout le dispositif. Si ça prend 6 mois pour valider le dossier, la boîte sera déjà morte.
Ouais, on en revient toujours à ce décalage entre la conception en laboratoire et le test grandeur nature. Mais bon, si on prend un peu de hauteur sur l'ensemble de ce dossier d'éco-business, pour synthétiser, on observe quand même une évolution idéologique très forte.
Une vraie rupture même.
C'est clair. Les TPME ne sont plus traités avec ce vieux paternalisme, genre « Oh, les pauvres petites structures fragiles qu'il faut garder sous perfusion sociale ». Ce pacte, il les remet vraiment au centre de l'échiquier.
Elles sont perçues pour ce qu'elles sont. Des vecteurs critiques de souveraineté économique.
Voilà. Des stabilisateurs sociaux essentiels et surtout les moteurs indispensables pour tirer la croissance au-delà du petit cercle des grandes métropoles.
Et je pense que la leçon centrale de cette analyse, pour quiconque dans notre audience s'intéresse à la mécanique de décision publique, ou même au monde des affaires en général, c'est que la puissance d'une stratégie, elle ne réside pas dans la complexité de ses concepts.
Non, ça on sait faire.
Oui, pondre des concepts complexes, n'importe quel cabinet de conseil sait le faire. La vraie puissance, elle réside dans son empathie structurelle envers l'utilisateur final.
C'est joliment dit ça. Empathie structurelle.
Bah, c'est ça, rendre les aides intelligibles, accessibles et surtout synchronisées avec le chaos quotidien que vit un petit patron. C'est là que réside l'innovation majeure de ce cadre.
En somme, on passe enfin d'une logique d'administration qui impose son rythme administratif lent à une logique de service public qui s'adapte au rythme de son client. C'est du design centré sur l'utilisateur mais appliqué à la politique macroéconomique.
Tout à fait. Et d'ailleurs, cette réflexion, elle ouvre la voie à un questionnement encore plus vaste, pour terminer. Un truc qui prolonge l'avertissement de notre source sur le fameux défi culturel.
Ah, je suis curieux.
Eh bien, tout au long de cette session, on s'est focalisé sur l'effort titanesque qu'on va demander aux petites entreprises. On leur dit « digitalisez-vous, adoptez des normes ESG strictes, formalisez votre comptabilité, utilisez l'IA pour survivre ».
C'est clair qu'on leur met la pression.
Mais il est peut-être temps de retourner le miroir.
De retourner le miroir vers l'État lui-même ?
Le concepteur du plan, précisément. Et si le test décisif de ce pacte 2026-2030 s'apportait pas seulement sur l'agilité des entrepreneurs, mais sur la capacité d'adaptation de l'appareil d'État lui-même ?
Ah, intéressant.
Bah oui, parce que si l'administration publique, avec toutes ses lourdeurs historiques, n'arrive pas à se moderniser, à accélérer ses décisions et à devenir aussi réactive et agile que les startups qu'elle exhorte au changement, alors même des subventions à 90% n'y changeront absolument rien. Pour faire éclore les gazelles de demain, l'État va d'abord devoir s'appliquer à lui-même la cure de flexibilité qu'il prescrit au secteur privé.
Une administration qui doit apprendre à courir aussi vite que les startups qu'elle finance. Le défi est posé. L'angle mort n'était donc pas seulement un problème de vision, mais bien un défi de vitesse d'exécution. De quoi laisser à ceux qui nous écoutent pas mal de matière à réflexion sur la capacité réelle de nos institutions à se réinventer.